Voilà. Bien. Alors, je suis très heureux d'accueillir et de présenter le frère Jean-Baptiste Lecuy, qui est un frère carme du couvent de Lille, qui enseigne la théologie à l'université de Lille, à la Cato de Lille, qui a, entre autres, son dernier livre, hein, c'est un livre de la collection Cogitatio Fidei, « Quand Dieu habite en l'homme, pour une approche dialogale de l'inhabitation trinitaire », donc paru en 2010. Nous sommes très heureux de l'accueillir. Et il va nous parler, donc si aussi son site internet, si vous allez voir que sa conférence va sûrement être très suggestive, et si vous voulez prolonger la réflexion, donc renvoyez à son site internet « Théologie et psychanalyse ». Vous tapez ça et vous tombez sur son site. Et il va nous parler, le titre de sa conférence, « La vision de la Trinité dans l'union complète avec Dieu, interrogation théologique sur le témoignage de Sainte Thérèse d'Avila ».
Merci beaucoup. Donc je vous salue. Donc vous avez vu, j'ai un petit peu modifié le titre. Donc le point de départ, c'est un peu restreint, mais le point d'arrivée sera, je l'espère, aussi large avec des conséquences pastorales. Voilà. Donc « La vision de la Trinité dans l'union complète avec Dieu ». Dans le livre des demeures, Sainte Thérèse d'Avila évoque l'expérience mystique exceptionnelle du mariage spirituel qui est inaugurée par une vision intellectuelle de la Trinité accomplie en une vision imaginaire du Christ présent en son âme et prolongée par une vision intellectuelle permanente de la Trinité et du Christ au plus intime d'elle-même. Les trois divines personnes, écrit-elle, se montrent distinctes et par une notion admirable qui lui est communiquée, l'âme sait avec une certitude absolue que toutes trois ne sont qu'une même substance, une même puissance, une même science et un seul Dieu. Ainsi, ce que nous croyons par la foi, l'âme, on peut le dire, le perçoit ici par la vue. L'extrême rareté d'une telle expérience implique-t-elle l'aussi grande rareté de l'accès au mariage spirituel ? L'entrée dans les septièmes demeures est-elle réservée à une poignée de grands mystiques, leurs disciples devant se contenter d'un éventuel accès à l'union moins profonde des cinquièmes demeures, prolongée de l'expérience aussi pénible qu'infructueuse de quelque épreuve caractéristique des sixièmes demeures ? Le père Marie-Eugène, sans doute éclairé par le cas de Thérèse de Lisieux, a tranquillement défendu l'hypothèse contraire. Il dit « Désirer un tel cérémonial à l'entrée des septièmes demeures nous paraît dangereux et enfantin. » Il prolonge « Le mariage spirituel assure une expérience de Dieu et de la Trinité sainte, de la nature et de la distinction des personnes, mais cette connaissance très haute et claire peut s'expliciter sous des formes différentes qui ne sont pas toujours une vision intellectuelle de la Trinité sainte au sens thérésien du mot. » Et avec le père Marie-Eugène, nous pouvons distinguer union transformante, ce que saint Jean de la Croix appelle union y transformation ou union o transformation, et d'un côté donc union transformante et de l'autre côté mariage spirituel, comme deux aspects d'un même état d'union. La première, l'union transformante, serait la transformation de l'âme par union d'amour complète avec Dieu, tandis que le second, ce mariage, est cet état spirituel, dit le père Marie-Eugène, avec tout le cortège de manifestations, de faveurs extraordinaires et de lumières contemplatives qui indiquent qu'une âme y est parvenue. La possibilité d'une union transformante, sans vision imaginaire ou intellectuelle, vient répondre à une question essentielle concernant la relation à Dieu. L'union complète avec Dieu suppose-t-elle l'expérience mystique de la conclusion explicite d'un mariage spirituel, comme semblent le penser et l'enseigner Thérèse d'Avila et Jean de la Croix? La possibilité que ce ne soit pas le cas ouvre d'autres questions. Comment concevoir aujourd'hui cet enseignement de Thérèse? Comment penser l'existence et le rôle des faveurs mystiques extraordinaires dans l'itinéraire spirituel? L'union transformante doit-elle être présentée comme un sommet exceptionnellement atteint, au-delà duquel aucun progrès n'est à envisager, ou comme le point de départ, plus souvent rejoint qu'on ne le pense, d'une croissance spirituelle ininterrompue? C'est à répondre à ces questions que nous allons nous consacrer en articulant trois démarches. la relecture des témoignages thérésiens concernant la vision intellectuelle de la Trinité et le mariage spirituel, leur comparaison avec les relations écrites par une autre grande mystique, dont vous découvrirez le nom en temps opportun, et la prise en compte à propos des phénomènes mystiques exceptionnels de l'éclairage des neurosciences et de la psychanalyse. Ce parcours nous conduira, je l'espère, à des conclusions à portée existentielle et pastorale. Première partie, donc, vision intellectuelle de la Trinité et mariage spirituel selon Sainte Thérèse d'Avila. Dans la mesure même où nous nous intéressons à la possibilité d'atteindre l'union transformante sans phénomène mystique extraordinaire, et en particulier sans vision intellectuelle de la Trinité, c'est le discours de Thérèse au sujet de ce phénomène qui va tout d'abord retenir notre attention. Elle évoque ce phénomène de la vision intellectuelle de la Trinité, tout d'abord dans deux relations d'expérience vécues au printemps 1571, dont vous pouvez suivre sur votre tableau chronologiquement de gauche à droite. Donc, deux relations vécues au printemps 1571, un peu plus d'un an avant le mariage spirituel. Ce dernier, qui survient en novembre 1572, fut lui-même accompagné de ce phénomène. Près de 10 ans plus tard, en 1581, dans la relation 6, Thérèse en évoqua la persistance. Ces récits suscitent bien sûr de nombreuses questions. L'une d'entre elles va nous intéresser plus particulièrement, celle de ce que j'appellerais le contenu trinitaire de la vision. Par contenu trinitaire de la vision, je désignerais ce qu'il est donné à Thérèse de voir ou de connaître spirituellement au sujet de la Trinité elle-même. Techniquement, la Trinité immanente, si vous voulez. Les relations intra-trinitaires, etc. La description du contenu de la grâce du 29 mai 1571 se limite, en ce qui concerne la vie trinitaire elle-même, donc c'est la dernière ligne, à la vision de la distinction des personnes dans leur unité. « Mon âme, écrit Thérèse, comprit comment un seul Dieu est en trois personnes. » Tout le reste concerne l'action de la Trinité, qui se donne à voir, qui est présente intérieurement par grâce, et chacune des personnes parle à Thérèse. Un mois plus tard, donc c'est la deuxième relation, Thérèse constate la persistance de la grâce reçue. Cette présence des trois personnes dont j'ai parlé en commençant dure encore aujourd'hui et mon âme en jouit d'une manière habituelle. Il semble bien qu'il s'agisse de la continuation de la vision intellectuelle évoquée dans la relation 16. Vient ensuite, c'est la troisième étape, dans le livre des demeures, l'évocation rétrospective de la vision intellectuelle de la Trinité qui lui fut donnée à l'entrée dans la septième demeure, en préambule à la contraction du mariage spirituel dans une vision imaginaire du Christ. J'ai déjà cité en commençant un extrait de ce texte, dont il ressort qu'aucun contenu nouveau n'est communiqué à Thérèse au sujet du mystère trinitaire lui-même. L'âme, écrit-elle, sait avec une certitude absolue que toutes trois ne sont qu'une même substance, une même puissance, une même science et un seul Dieu, dit-elle à propos des trois personnes. À la différence des visions intellectuelles précédentes, cette vision de la Trinité qui inaugure le mariage spirituel est un don permanent, quoique ses effets ne sont pas toujours aussi puissants. Nous lisons chez Thérèse. Il faut savoir que la vision de cette divine présence ne reste pas toujours aussi entière, ou pour mieux dire aussi claire, qu'au moment de la première manifestation et de celle que Dieu accorde encore à l'âme de temps en temps. Autrement, il serait impossible de s'occuper d'autre chose, c'est-à-dire l'intensité du phénomène, et même de vivre parmi les humains. Mais si le degré de clarté n'est pas le même, l'âme, cependant, chaque fois qu'elle est attentive, se trouve en cette divine compagnie. Cette permanence de la vision, à partir du mariage spirituel, est l'unique élément nouveau en ce qui concerne la vision de la Trinité par rapport aux visions précédentes. La dite vision s'accompagne d'une vision intellectuelle du Christ en son humanité, tout aussi durable, à ce qu'il semble, qui prolonge la vision imaginaire par laquelle ce même Christ, pour la première fois, s'est manifesté à l'intérieur même de l'âme de Thérèse. Près de 10 ans plus tard, dernière colonne de votre tableau, et moins de 2 ans avant sa mort, Thérèse affirme le caractère quasi permanent de sa vision intellectuelle de la Trinité. Elle dit « Les visions imaginaires ont cessé, mais j'ai continuellement, me semble-t-il, la vision intellectuelle des trois personnes et de la sainte humanité, ce qui, selon moi, est une grâce beaucoup plus élevée. » Elle affirme ensuite l'impossibilité de douter de la réalité de la présence en elle des trois personnes. Thérèse précise, et c'est important pour la suite, que seule la force de la maladie physique peut altérer le caractère permanent de cette expérience. Mais cet affaiblissement exceptionnel de la vision intellectuelle n'affecte aucunement ce qui constitue l'essentiel du mariage spirituel, à savoir l'union de volonté dans sa perfection. Comment ne pas s'étonner du caractère saisissant, du contraste saisissant entre la sublimité de la grâce reçue et le caractère très limité de ce que j'ai appelé le contenu trinitaire de cette vision. Ce que Thérèse dit voir de la vie trinitaire elle-même est simplement comment un seul Dieu est en trois personnes, qui se montrent distinctes et ne sont qu'une même substance, une même puissance, etc. Thérèse, pourtant si douée pour décrire avec fidélité et précision ses expériences mystiques, réduit sa description de la vie trinitaire s'offrant au regard spirituel à l'affirmation qu'elle a vu l'unité et la distinction des personnes. Elle ne dit aucunement avoir vu ce qui fait le cœur même de la vie trinitaire. Par exemple, que le Père seul en est la source sans origine, que le Fils est éternellement engendré de lui, que l'Esprit est leur lien d'amour mutuel, ou encore que le Père est dans le Fils et le Fils dans le Père. En termes théologiques, rien n'est dit, rien ne semble être vu des processions, des relations, de l'immanence mutuelle des personnes divines. Plus étonnant encore, pour une personne si sensible à l'amour de Dieu, Thérèse ne dit jamais, dans les quatre relations, avoir vu que la Trinité est un mystère d'amour et de communion. Non pas seulement envers les hommes, de cela elle parle lorsqu'elle évoque la communication faite aux créatures et à son âme. Mais Dieu est amour en lui-même. Il semble que cela n'est pas contenu dans la vision trinitaire. Dieu est amour, c'est le cœur du mystère trinitaire, et tout se passe comme si, voyant la Trinité, Thérèse n'avait pas vu qu'elle est un mystère d'amour. C'est l'étonnement qui est la source de mes réflexions. On pourrait objecter qu'une telle vision est impossible à décrire, ou même à recevoir. Mais cette hypothèse est balayée par la prise en considération du témoignage étonnamment semblable, quoique très différent sur ce point précis du contenu de la vision, de Sainte Marie de l'Incarnation. La grande mystique française, Ursuline, est missionnaire de la première heure de ce qui deviendra le Canada et qui va maintenant retenir notre attention. C'est la deuxième partie. Les enseignements d'une comparaison avec le cas de Marie de l'Incarnation. Avant d'évoquer la parenté mystique entre Marie et Thérèse, rappelons quelques-unes des différences touchant à leur itinéraire humain et spirituel. Contrairement à Thérèse d'Avila, Marie de l'Incarnation, donc 1599-1672, donc disons 17e siècle, fut épouse et mère d'un garçon, veuve à 20 ans, et reçut très jeune la grâce du mariage spirituel, à 27 ans, 4 ans avant son entrée dans la vie religieuse. Elle a donc passé les 45 dernières années de sa vie dans cet état spirituel, non sans y connaître de longues épreuves intérieures. D'autre part, Marie n'a pas connu l'expérience, si présente dans la vie de Thérèse, d'une multiplication de visions imaginaires ou de paroles intérieures. Il semble que les seules visions qu'elle ait eues sont précisément celles qui la rapprochent de Thérèse, sur un point essentiel, des visions intellectuelles de la Trinité précédant de peu et accompagnant le mariage spirituel, mais aussi la vision intellectuelle du Christ la faisant entrer dans le mariage spirituel avec lui. La première vision advient le 19 mai 1925, elle a 26 ans, et elle n'est pas encore devenue religieuse. Il s'agit, dit-elle, d'une impression, au sens fort d'une influence intérieure passivement reçue de Dieu, sans forme ni figure, donc pas imaginaire, mais plus clair et intelligible que toute lumière, dit-elle. Donc vision, impression que nous avons tout lieu de considérer, pour cette raison même, comme une vision intellectuelle. À la grande différence des relations de Thérèse, le contenu trinitaire en est très riche, comme il apparaît à la lecture de Céline. Donc je vous cite ce que Marie de l'Incarnation dit. Après, bon, il y a des problèmes critiques, elle a écrit ça longtemps après. Enfin bref, je peux répondre à des questions là-dessus. Voilà. L'impression reçue de Dieu, dit-elle, me fit voir le divin commerce qu'ont ensemble les trois personnes divines. L'amour du Père, lequel, se contemplant soi-même, engendre son Fils, ce qui a été de toute éternité et sera éternellement. Ensuite, mon âme entendait l'amour mutuel du Père et du Fils produisant le Saint-Esprit, ce qui se faisait par un réciproque plongement d'amour, sans mélange d'aucune confusion. Je recevais l'impression de cette production, entendant ce que c'était que spiration et production. Voyant les distinctions, je connaissais l'unité des sens entre les trois personnes divines. Cette phrase correspond à peu près à ce que dit Thérèse, cette dernière phrase seulement. Je connaissais l'unité, les distinctions et les opérations dans elles-mêmes et hors d'elles-mêmes. Les caractéristiques dont nous avons repéré l'absence dans les visions de Thérèse sont ici présentes. La Trinité comme mystère d'amour et la distinction des relations intra-trinitaires. Dans cette vision qui dura longtemps, Marie fut instruite de ce qu'elle ignorait auparavant. Elle dira un petit peu plus loin, « L'âme ayant eu des craintes d'être trompée après la vision, lorsqu'elle sait que tout ce qui s'est passé en elle est dans la foi de l'Église, autrement dit, elle ne le savait pas avant, de qui elle tient son souverain bonheur d'être fille, elle possède une grande paix. » Donc, en tout cas, dans son récit, il est clair que pour elle, elle reçoit une sorte de révélation de ce qu'elle ignorait auparavant. Alors, il y a une deuxième vision trinitaire qui intervient 2 ans plus tard, en 27, qui est accompagnée de l'entrée dans le mariage spirituel. Alors, son contenu trinitaire est décrit de manière moins riche que dans la première vision, mais il connaît un approfondissement touchant à la génération du Verbe. Voici ce que dit Marie de l'Incarnation à ce sujet. « Je voyais les communications internes des trois personnes, comme je les avais vues la première fois, mais je fus bien plus amplement instruite de la génération éternelle du Verbe. Oh, que cela est ineffable que le Père, se contemplant, engendre un autre lui-même, qui est son image et son Verbe. Que cette génération ne cesse point, que le Verbe soit égal à son Père en puissance, en grandeur, en majesté. » Et que le Père et le Verbe, par leur amour mutuel et réciproque, produisent cet esprit d'amour qui leur est pareillement égal en toute chose. Dans la relation, dans une autre relation de ce même événement, l'action particulière du Verbe est explicitement décrite comme réalisant le mariage spirituel. Marie écrit « Cette suradorable personne s'empara de mon âme et l'embrassant avec un amour inexplicable, l'unit à soi et la prit pour son épouse. » Alors que Thérèse, nous l'avons vu, évoque successivement, sans les relier explicitement l'une à l'autre, la vision intellectuelle de la Trinité, la vision imaginaire du Christ ressuscité à l'intérieur de l'âme, qui effectue le mariage spirituel, et la vision intellectuelle du Christ en l'âme, Marie procède différemment. Le mariage spirituel est réalisé par le Verbe sous le regard du Père et de l'Esprit, et c'est l'Esprit qui l'a fait s'unir au Verbe. Voici ce qu'elle écrit. Lorsque le sacré Verbe opérait en moi, le Père et le Saint-Esprit regardaient son opération. Et toutefois, cela n'empêchait pas l'unité, car l'on conçoit l'unité et la distinction sans confusion de tout cela d'une façon inénarrable, chacune des personnes étant libre de son opération. Un peu plus loin, l'épouse expérimente que le Saint-Esprit est le moteur qui l'a fait agir de la sorte, c'est-à-dire comme épouse, avec le Verbe. Alors elle explique qu'elle a reçu un peu plus tard une autre vision intellectuelle de la Trinité, encore plus élevée, d'après son expérience, et dans laquelle elle reçoit cette parole. La première fois, enfin, non, elle n'a pas de locution intérieure. Elle reçoit l'intelligence qui peut se résumer dans une phrase du Christ qui lui aurait dit « La première fois que je me manifestais à toi, c'était, ou plutôt Dieu, je me manifestais à toi, c'était pour instruire ton âme de ce grand mystère. La seconde fois, c'était à ce que le Verbe prit ton âme pour son épouse, mais à cette fois, la troisième, le Père et le Fils et le Saint-Esprit se donnent et communiquent pour posséder entièrement ton âme. » Nous arrivons donc à la troisième étape, après ce diptyque, qui va nous conduire à nous interroger sur l'origine des visions intellectuelles de la Trinité de Thérèse d'Avila et de Marie de l'Incarnation. Le témoignage de Marie de l'Incarnation manifeste, avec une particulière éloquence, me semble-t-il, la possibilité d'une vision intellectuelle de la Trinité dont le contenu trinitaire, donc je parle de la vie intra-trinitaire, ne se réduise pas, comme chez Thérèse, à l'unité d'essence des trois personnes. Non seulement Marie déclare avoir vu et même découvert d'autres aspects de ce mystère, découvert non pas par rapport à la foi de l'Église, mais par rapport à ce qu'elle en connaissait, mais elle en livre une riche description en laquelle les grâces de la vision intellectuelle et du mariage spirituel sont finement articulées, avec une particulière insistance sur le fait qu'il s'agit d'un mystère d'amour et sur le rôle de l'esprit dans son adhésion au Verbe. Notre étonnement initial, devant ce que j'ai appelé la pauvreté du contenu intellectuel de la vision de la Trinité chez Thérèse, notre étonnement initial s'en trouve confirmé. Et nous sommes conduits à chercher une interprétation de cette relative pauvreté. Cela permettra, nous pouvons l'espérer, de discerner l'essentiel de ce qui constitue l'union transformante et du message thérésien à son sujet. Alors ici, plusieurs hypothèses se présentent à nous quant à l'origine des visions intellectuelles. La première consiste à considérer les visions, en général, mais aussi les visions intellectuelles, comme un phénomène purement naturel. Je suppose que ce n'est pas la première hypothèse à laquelle vous pensez. Elles proviendraient, ces visions, du seul fonctionnement neuropsychique du sujet, tel qu'il résulte de son évolution personnelle, en interaction avec le monde extérieur, la culture, etc. On ne peut pas conclure à la fausseté de cette thèse à partir de considérations purement neurologiques ou psychologiques. En effet, les visions, en tant que faits mentaux, relèvent de telles approches scientifiques, qui voient dans leur caractère énigmatique un nouveau sujet de recherche, mais non l'obligation de postuler l'action d'agents surnaturels. Mais, du point de vue de la foi, la possibilité d'une action de Dieu au cœur même de l'être humain, de son affectivité et de ses facultés spirituelles, ne fait pas de doute. Que Dieu puisse illuminer l'esprit humain et le fasse effectivement est impliqué par toute la théologie de la grâce et des vertus théologales. Pouvons-nous pour autant en déduire la vérité de la thèse contraire, selon laquelle les visions intellectuelles seraient un phénomène purement spirituel, donné par grâce, surnaturel, si vous voulez, surnaturel, dans lequel les processus neurologiques et psychiques n'interviendraient pas activement? Une telle déduction en faveur du tout spirituel serait fautive, à mon avis, non seulement parce que d'autres possibilités existent, voilà, mais parce que l'on doit rejeter la thèse du tout spirituel comme doublement invraisemblable. Supposons donc que tout soit purement spirituel. Il y a deux invraisemblances. D'abord et principalement parce que, selon l'adage ancien, tout ce qui est reçu selon le mode de celui qui reçoit. Si l'esprit humain ne se réduit pas au neurologique ou au psychique, son fonctionnement en dépend toujours. Donc il doit toujours y avoir, même dans les grâces les plus hautes, quelque chose de neurologique et psychique. Ensuite, parce que la comparaison des cas de Thérèse d'Avila et de Marie de l'Incarnation place le tenant de la thèse spiritualiste, c'est-à-dire celui qui dit dans la vision intellectuelle « tout n'est que spirituel », devant la difficulté insurmontable pour lui de rendre compte de la pauvreté du contenu trinitaire de la vision de Thérèse. Comprenez, si c'est purement spirituel, pourquoi est-ce que Dieu, au moment où il se dévoile, ne montre que l'unité des trois personnes et pas le mystère d'amour, l'Esprit-Saint comme lien, etc. Autrement dit, plus on donne de poids à l'intervention spéciale de Dieu dans la vision intellectuelle de la Trinité par Thérèse, plus on rend difficile la réponse à cette question simple. Comment se fait-il que cette vision, alors même qu'elle accompagne l'entrée et le séjour dans la septième demeure, celle de l'union d'amour indissoluble avec Dieu, ne montre pas la Trinité comme un mystère d'amour entre le Père et le Fils, dans lequel l'Esprit nous introduit? Qu'une telle vision soit impossible, on pourrait dire en fait c'est pas montré parce que c'est pas possible, est contredit par le cas de Marie de l'Incarnation. Que Thérèse, autre possibilité, en ait effectivement bénéficié, mais n'en ait rien dit, me paraît invraisemblable. On pourra discuter ça, mais ça me paraît invraisemblable. Que Dieu, dans le moment même où il est censé intervenir dans une région spirituelle dégagée de tout conditionnement neuropsychique, c'est l'hypothèse que nous travaillons, choisisse de voiler cet aspect essentiel de son mystère, est certes possible, il fait ce qu'il veut, mais tout aussi peu vraisemblable à mon sens. Reste l'hypothèse, c'est la troisième que je retiendrai, que les visions intellectuelles soient un phénomène inséparablement spirituel et neuropsychique. Donc dans psychique, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, une philosophie classique des facultés de l'âme ou bien une vision plus moderne, c'est au sens très large. Donc un phénomène inséparablement spirituel et neuropsychique. De telle façon que la survenue de ces visions et leur contenu soient profondément conditionnés par le fonctionnement neuropsychique sans pour autant s'y réduire. Nous allons maintenant nous consacrer à l'exploration de cette possibilité en commençant par évaluer l'approche qu'en propose Thérèse elle-même, puis en prenant en compte l'apport des neurosciences et de la psychanalyse. Nous le ferons en élargissant dans un premier temps notre horizon à l'ensemble des phénomènes mystiques pour le restreindre ensuite aux visions intellectuelles. Et c'est ce que nous faisons dans notre quatrième partie. Nature et grâce dans les phénomènes mystiques et en particulier dans les visions intellectuelles de la Trinité. Selon Thérèse d'Avila, donc j'apporte un élément thérésien nouveau ici, enfin dans l'exposé, pas dans la recherche. Selon Thérèse d'Avila, les phénomènes mystiques exceptionnels que sont les extases, les visions ou les locutions, donc les paroles intérieures, peuvent avoir trois sources différentes. La première, c'est la personne elle-même. Il s'agit alors du résultat d'une forme d'autosuggestion impliquant, comme dit Thérèse, un grand effort d'imagination, voire d'un effet de la mélancolie. Les deux autres sources possibles sont le démon et Dieu. Aux yeux de Thérèse, le critère fondamental pour écarter l'autosuggestion est celui de ce qu'on peut appeler la passivité absolue. Vulgairement, j'y suis pour rien. Voilà. Donc je passe un petit développement ici. On peut résumer les choses, si vous voulez, la vision de thérésienne, je pense qu'elle était partagée par les théologiens de l'époque, en une formule. Toute vision, extase, locution, qui n'est causée ni par le démon, ça se voit aux effets qui sont bons, hein, si ce n'est pas le démon, ni par l'activité de l'imagination. Donc si on peut écarter l'activité de l'imagination et le démon, aussi la mélancolie, voilà, à ce moment-là, ça vient de Dieu. C'est le raisonnement qui est tout à fait compréhensible et logique, en tout cas. Thérèse, comme il était normal à une époque où l'on ne bénéficiait pas des observations et des connaissances fournies aujourd'hui par la neurologie ou la psychanalyse, ne pouvait envisager la possibilité d'une origine naturelle autre que l'activité de l'imagination ou l'effet de la mélancolie. Or, il est certain que ni l'une ni l'autre, donc ni l'imagination ni la mélancolie, ne peut rendre compte de ce que les visions ou locutions ont de saisissant, leur survenue inopinée, involontaire, l'impossibilité de les reproduire, même de les éviter. Le plaisir intense qui les accompagne souvent, ou la puissance de leurs effets sur le corps et sur le comportement. Tout à fait d'accord, ça ne peut pas venir de l'imagination ni de la mélancolie. Mais est-ce que ça vient pour autant nécessairement d'un agent surnaturel? Aujourd'hui, ces caractéristiques que j'ai énoncées, survenue inopinée, impossibilité de le reproduire, plaisir intense, ces caractéristiques n'étonnent plus pour peu qu'on soit suffisamment informé des données neurologiques ou psychologiques. Voyons comment ces données invitent à une actualisation, non pas une contestation, mais une actualisation du principe de discernement énoncé par Thérèse, à savoir, si je résume, hein, tout ce qui ne vient pas de l'imagination vient du démon ou de Dieu. Donc j'aborde ici le terrain des sciences contemporaines. La fréquence, la richesse et la variété des phénomènes extraordinaires dans la vie de Thérèse d'Avila ont depuis longtemps attiré l'attention des spécialistes de la vie mentale. L'idée qu'il s'agisse d'hallucinations psychotiques doit être écartée. Les qualités relationnelles de Thérèse, sa grande créativité, sa joie de vivre, la souplesse de son comportement, tout cela atteste d'une excellente santé psychique. Mais il est devenu aujourd'hui très vraisemblable qu'elle ait souffert d'une forme rare d'épilepsie, se caractérisant par la survenue imprévisible d'extase accompagnée de visions et d'un intense plaisir non sexuel, l'épilepsie dite extatique, dont on ne parle que depuis 20 ou 30 ans maximum. Le premier motif d'attribuer à la sainte une affection d'ordre épileptique est la grave maladie dont elle fut atteinte à l'âge de 22 ans. Selon le neurologue Pierre Verceletto, les faits rapportés par elle-même, et aussi par les témoins à son procès de béatification, évoquent un état de mal épileptique, c'est-à-dire une grave maladie épileptique, hein, précédé d'un mal de cœur, mal de corazón, j'y reviendrai, hein, et de perte de connaissance. Cet état se manifeste par un coma de 4 jours, vous le savez bien, hein, qui fait croire à sa mort, on creuse sa tombe, et dont on le ressort, dit-elle, avec la langue en lambeaux à force de l'avoir mordu. Enfin, à force de l'avoir mordu, c'est l'interprétation de Verceletto. Ce qui constitue, hein, ce mordre de la langue, un signe pathognomonique de la crise épileptique. Ça veut dire un signe qui, à lui seul, permet de faire le diagnostic. D'accord ? Comme les points blancs à l'intérieur de la joue pour la rougeole. Voilà. Ou le réflexe de Babinski, voilà, atteinte du faisceau pyramidal, il n'y a pas de réflexe de Babinski, c'est un signe pathognomonique de l'épilepsie. Donc elle dit qu'elle a la tête livrée à un désordre étrange, les membres contactés, ramassés en peloton, Elle reste presque entièrement paralysée, en proie à de grandes douleurs. Donc tout cela évoque, pour les spécialistes, le plus vraisemblablement, je ne peux rien prouver, c'est juste des arguments de vraisemblance, un état de mal gravissime. Il faut ajouter, donc, après cet état de mal gravissime qui dure 4 jours, un épuisement et des douleurs qui l'affectent encore pendant 8 mois, et elle souffre encore pendant 3 ans de contraction des membres. Donc ça évoque très fortement une maladie neurologique de type épileptique. Alors le docteur García Albea-Ristol, Esteban de son prénom, ça fait un peu long, qui établit le même diagnostic d'état de mal épileptique, fait remarquer que l'expression « mal de corazón » employée par Thérèse est empruntée au jargon médical de l'époque, qui désignait ainsi le mal sacré, appellation antique de l'épilepsie. C'est le mal de corazón, c'est une expression technique pour parler de l'épilepsie. Ça, ça prouve rien à soi seul, évidemment. C'est tout un tableau. Alors, ce diagnostic concernant la maladie qui n'a duré que quelques années, quelques jours, puis ensuite qui a duré quelques mois et années, ce diagnostic n'a apparemment aucun rapport avec les phénomènes mystiques qui survinrent des années plus tard, quelques 6, 7, 8 ans plus tard, hein, avec une grande fréquence. Vous savez, c'est ces ravissements qu'il apprenait en public, elle suppliait Dieu d'arrêter, et puis ça continuait quand même. Il faut tenir compte d'observations cliniques qui, depuis quelques décennies, ont conduit à identifier une forme de crise épileptique rare qui a son foyer dans le lobe temporal, c'est-à-dire sur le côté, et provoque des extases pouvant avoir un contenu religieux. Cette épilepsie qu'on qualifie d'épilepsie extatique se manifeste en des épisodes paroxystiques qui comportent, je cite un spécialiste, des sentiments positifs et intenses de bien-être, de plaisir, sans connotation sexuelle, de plénitude, de paix, de beauté, etc. Les extases et visions de Thérèse étaient-elles dues à des crises d'épilepsie du lobe temporal? Voici les éléments plaidants. J'espère ne pas me faire lâcher avant la fin de la journée. Voici les éléments plaidants en ce qui concerne Thérèse pour le rôle d'un tel processus. Non, au-delà du rire, c'est une question très grave. Le rôle d'un tel processus dans la survenue de ces extases et visions. Qu'est-ce qui plaide pour ça? Beaucoup de choses, énormément de choses, et encore je ne vais pas tout dire. Leur caractère subi, imprévisible, bref, qui se produit par vagues, c'est-à-dire des périodes où pendant plusieurs semaines c'est très intense et ensuite ça se calme. L'absence de symptômes moteurs, elle ne se met pas à partir dans tous les sens, typique des crises d'épilepsie classiques. Leur caractère purement psychique et sensoriel, ça se passe essentiellement dans la tête, on va dire. La suspension des sens qui l'accompagne, la difficulté de mouvement, la disparition de l'attention au monde extérieur, qui peut durer d'ailleurs après la vision, la survenue d'hallucinations, aussi le caractère ineffable des expériences, tout cela évoque la forte possibilité d'une origine épileptique des extases et visions de Thérèse. Comme dit le docteur García Albea-Ristol, les antécédents clairement épileptiques de sa jeunesse, la maladie, le profil stéréotypé des épisodes et leur proche parenté avec d'autres cas semblables à caractère indubitablement épileptique, parce que observé comme il faut, plaident donc pour une telle conclusion. Et conclusion qui est partagée par de nombreux spécialistes, j'ai réuni toute une documentation d'articles scientifiques sur la question. Nous pouvons conclure, première étape, nous ne sommes pas arrivés au bout, que Thérèse, qui a souffert d'un grave état de mal épileptique dans sa jeunesse, pour moi c'est une quasi-certitude, en a probablement, là, je laisse ça à votre jugement, conserver la propension à des crises épileptiques localisées dans le lobe temporal, lesquelles favorisaient la survenue d'extase et de vision. Alors je ne peux pas développer ici quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'en fait, si c'est vrai, alors les visions devraient être latéralisées. Or de fait, assez souvent, Thérèse décrit latéralise ses visions, et toujours du côté gauche, il y a une seule exception du côté droit, et on peut montrer que ça peut échapper à ce cas-là. Donc ça, je ne peux pas développer ça, mais il y a des éléments très troublants. Je pouvais même vous raconter un cas concret d'une personne qui a des visions et latéralisées à gauche. Bon, alors, nous ne pouvons pas déduire de cela que chacun des phénomènes décrits par Thérèse était causé par une telle crise. Ça me paraît beaucoup trop, ça me paraît impossible. Cependant, au vu des données que j'ai indiquées, il me paraît déraisonnable de nier la composante neurologique des nombreux phénomènes mystiques dont est fait l'expérience. Je pense qu'on ne peut pas la nier simplement. Le plus vraisemblable est qu'à l'occasion des extases et hallucinations d'origine épileptique, peut-être pas toutes, mais au moins beaucoup, à l'occasion de ces extases et hallucinations d'origine épileptique, dans et par ce processus neurologique, Dieu est éclairé et mu intérieurement Thérèse, tout comme il l'éclairait et la mouvait intérieurement au long des jours. Il n'agit pas en elle que dans les vies. Cela n'implique pas à mes yeux que ces phénomènes exceptionnels aient été purement naturels, attention, ni que toutes les extases ou visions de la sainte aient correspondu à des phénomènes épileptiques. Alors, la question du rôle de l'épilepsie, vous allez me dire, se pose tout particulièrement à propos des visions intellectuelles dont nous sommes partis. Il ne semble pas, d'après la documentation rhénique, que le rôle de l'épilepsie dans les visions intellectuelles ait pu être direct. Non seulement d'abord parce que les articles scientifiques ne mentionnent pas les visions intellectuelles comme matériaux probants, mais encore parce que les visions intellectuelles ont une particularité, c'est celle de pouvoir durer des semaines ou même des années. Donc ça ne correspond pas à une crise épileptique. Mais je pense que le fonctionnement cérébral et mental de Thérèse fut marqué, bien sûr, par la succession de sa grave maladie épileptique. Comment cela n'aurait-il pas laissé des traces dans son esprit, dans son cerveau et dans son psychisme ? Donc, succession de la grave maladie épileptique, des années où extase et vision imaginaire furent très fréquentes, et enfin de celles où, contrairement à ce qu'on dit, ça ne disparaît pas complètement. Ça, il reste quelques visions imaginaires, quelques ravissements. Même si ces particularités n'expliquent pas la survenue des visions intellectuelles, je suis clair là-dessus, comment n'auraient-elles pas influé sur elles, sur leurs possibilités même ? D'ailleurs, Thérèse fait elle-même remarquer que la maladie physique, lorsqu'elle accable extraordinairement, occulte la vision intellectuelle. C'est donc que la vision intellectuelle, si je comprends bien, n'est pas purement spirituelle, au sens où elle serait absolument indépendante du fonctionnement psychique et cérébral. D'autre part, le fait même qu'il ait fallu les ressources des neurosciences pour mettre en évidence l'origine naturelle des phénomènes extatiques et hallucinatoires, très proche de beaucoup de ceux décrits par Thérèse, donc dans des cas que je ne peux pas détailler ici, nous invite à mettre à jour le critère de discernement que nous avons évoqué précédemment. Ce qui n'est causé ni par le démon ni par autosuggestion n'est pas nécessairement causé spécialement par Dieu, mais peut-être le fruit du fonctionnement spontané des processus psychiques et cérébraux dont nous sommes encore loin d'avoir découvert toute la richesse et la complexité. Alors, je pourrais faire un petit développement sur la psychanalyse. En fait, ce qu'apporte la psychanalyse, donc je renvoie, verrai dans l'article, à un article d'Antoine Vergotte, un théologien psychanalyste, c'est évidemment, une fois qu'on a admis qu'il y avait un possible origine épileptique dans le déclenchement des crises, leur fréquence, etc., après, quant au contenu, on voit que d'une personne à l'autre, c'est très dépendant de la culture et de la psychologie. Et donc là aussi, la psychanalyse a des choses à dire sur des mécanismes élémentaires qui peuvent avoir joué un rôle dans la survenue des visions. Du côté du rêve, si vous voulez, qui traditionnellement était souvent confondu avec une intervention divine. Parce que le rêve a cette particularité de faire croire, de faire adhérer à une représentation comme étant réelle, au moment où on rêve, alors qu'elle vient du plus profond, etc. Enfin bref, je ne peux pas développer ça. J'en viens à la conclusion qui sera un petit peu développée parce que ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas simplement ce qui s'est passé dans la tête et l'esprit de ces grands mystiques, mais c'est ce que j'ai appelé, avec un peu de maladresse sans doute, une pastorale de l'union transformante. Voilà. Donc c'est à adapter dans la pastorale, mais l'idée est là, une pastorale de l'union transformante. La première conclusion de notre enquête concerne le discernement de l'origine des visions, et en particulier de celles qui accompagnent l'union transformante, donc cette pleine union à Dieu qu'est la sainteté. Pouvons-nous continuer d'affirmer comme Thérèse que les visions non causées par autosuggestion sont l'œuvre d'un agent surnaturel, le démon ou Dieu ? Je réponds non, car les connaissances actuelles sur le cerveau et les psychismes nous conduisent à tenir compte du rôle dans les phénomènes mystiques de processus inconscients, tels que ceux qui sont à l'œuvre dans l'épilepsie du lobe temporal ou le rêve, ou d'autres encore qui restent inconnus. Luis Arostegui, le précédent général Descartes, m'a écrit des choses tout à fait, qui vont tout à fait dans ce sens précédemment, sans parler de neurologie. Il est raisonnable de penser que il est raisonnable de penser que le moment de la vision, sa tonalité affective et des éléments de son contenu sont dans une large mesure déterminés par le jeu autonome et spontané des processus neurologiques et psychiques. Le déclenchement est lié à l'activité autonome du cerveau, de même la durée, etc. Cela se produit indépendamment de la volonté du sujet, mais non sans l'influence de sa structuration complexe, telle qu'elle résulte de la lente transformation intérieure, qui tout à la fois conditionne les phénomènes mystiques et en dépend. Un effet de feedback, comme on dit. En outre, la thèse d'une causalité purement surnaturelle des visions intellectuelles, nous l'avons vu, est grandement fragilisée par deux faits dont nous avons relevé l'importance, au passage. Premièrement, leur disparition ou quasi-disparition en cas de forte maladie physique. Et plus encore, la pauvreté salva referentia, donc toute référence gardée envers la Sainte Mère, la pauvreté du contenu trinitaire des visions intellectuelles de la Trinité de Thérèse, comparée à celui des visions de Marie de l'Incarnation. Vous comprenez ? Si c'est purement spirituel, si il n'y a aucun conditionnement culturel, psychique, etc., pourquoi Dieu donne tant à Marie de l'Incarnation et si peu à Thérèse ? À voir. Comme nous l'avons remarqué, si la vision intellectuelle de la Trinité précédant et accompagnant le plus haut degré d'union à Dieu était purement spirituelle, il serait invraisemblable qu'elle n'ait pas eu pour contenu chez la grande mystique espagnole la vie trinitaire comme mystère d'amour. Ces considérations ne contredisent en rien l'action de Dieu dans les visions ayant pour effet un progrès dans la vie théologale. Donc je mets de côté les visions qui seraient d'origine démoniaque ou autre. À l'occasion de ces visions-là, qui ont pour effet un progrès dans la vie théologale, et en elles, Dieu éclaire, transforme et meut intérieurement la personne, la faisant grandir dans la ressemblance à lui, jusqu'à l'union transformante et dans l'approfondissement de celle-ci. Dans la vie théologale ordinaire dépourvue d'extase et de vision, Dieu éclaire et transforme intérieurement le croyant, par et dans le jeu de son fonctionnement cérébral et psychique ordinaire. Chez le visionnaire, il opère cette illumination et cette transformation, qui est l'essentiel, par le moyen d'extase et de vision, qui supposent un fonctionnement cérébral et psychique extraordinaire, mais ne sont pas nécessairement causés par une intervention extraordinaire de sa part à Dieu. Ces phénomènes mystiques ne sont qu'une condition facultative des illuminations et transformations conduisant à l'union transformante. J'en conclus que l'union transformante peut être atteinte sans les grâces mystiques que Thérèse affirme être données avec le mariage spirituel, la vision intellectuelle de la Trinité, mais aussi, on pourrait étendre le même raisonnement à la vision du Christ en l'âme. Voilà. Donc, nous voyons qu'à cette conclusion, nous sommes parvenus par un autre chemin que le père Marie-Eugène, hein, le chemin de l'analyse du discours de Thérèse à propos de la vision intellectuelle de la Trinité, pauvreté de son contenu, à la lumière du cas de Marie de l'Incarnation et de certaines données neurologiques et psychologiques dont nous disposons aujourd'hui. La certitude qu'il s'agisse d'un phénomène purement spirituel, dans ses causes et dans sa nature, s'en est trouvée fortement ébranlée. Loin de nous conduire à rejeter l'enseignement de Thérèse au sujet de l'union à Dieu, cela ne peut que nous pousser à en recueillir l'essentiel, qu'elle a soin de souligner elle-même. Il s'agit avant tout d'une union complète et indissoluble avec Dieu, un mariage spirituel, dont le sens profond est de nous faire porter du fruit par lui et pour lui. La seule préoccupation, dit Thérèse, de l'âme en qui Dieu habite d'une façon si particulière est de lui plaire toujours davantage, de trouver des occasions, des moyens de lui témoigner son amour. C'est là, mes filles, le but de l'oraison, et ce mariage spirituel est destiné à produire continuellement des œuvres. Voilà, je le répète, le véritable signe qu'il y a une opération de Dieu et un don de sa main. Le signe, ce n'est pas qu'on a une vision intellectuelle, même si elle est censée être indubitable, hein, c'est la charité. J'en conclus donc que nous pouvons et même que nous devons étendre aux septièmes demeures ce que Thérèse disait des cinquièmes, ce qu'elle disait des cinquièmes, à savoir que le degré d'union à Dieu qui se réalise en elle peut être atteint sans la grâce mystique qui leur correspond, l'oraison dite d'union. Vous voyez, elle parle d'un attach ou un raccourci par l'union d'oraison. Voilà, elle dit à propos des cinquièmes demeures, on peut arriver au même résultat sans les grâces mystiques. Par contre, elle ne le dit pas à propos des septièmes. Alors, est-ce qu'elle n'a pas pensé à le dire, ce qui est tout à fait possible? Voilà. En tout cas, ce que je pense qu'on peut montrer, c'est que c'est cohérent avec sa pensée que de dire que même sans ces grâces mystiques qu'elle décrit, on peut parvenir au mariage spirituel. Alors, on pourrait ajouter le fait que il y a, dans une pastorale de l'union transformante, il faut un peu démystifier, je pense, toutes ces grâces mystiques. Donc, par le chemin que je propose n'est pas le seul, mais il en est un. Il faut les démystifier, et en soulignant aussi le fait que le mariage spirituel n'est pas, contrairement à ce que pourrait le laisser penser la structure même du livre des demeures, simplement un point d'arrivée, mais aussi un point de départ. Et le cas de Marie de l'Incarnation en est une illustration extrêmement forte, puisqu'elle a vécu 45 ans ensuite de développement spirituel après le mariage spirituel. Donc, s'il est vrai, comme ces réflexions nous conduisent à l'admettre, que nous pouvons et que nous devons aspirer de manière réaliste à l'union, nous, c'est nous, hein, à l'union d'amour avec Dieu décrite dans les septièmes demeures, quel est le moyen le plus sûr pour y parvenir? Donc Thérèse de Lisieux répond, la confiance, rien que la confiance. Et c'est bien là une insistance propre de Thérèse de Lisieux, qui a contribué d'ailleurs à ce que soit répandu l'appel universel à la sainteté, autre nom de l'union transformante. Mais il convient, et je termine avec ça, d'en reconnaître l'inspiration thérésienne. Lorsque sainte Thérèse d'Avila, en effet, s'interroge rétrospectivement sur la longue période d'impuissance à répondre aux appels de Dieu, elle écrit ceci. « Je cherchais un remède, je prenais des moyens, mais évidemment je ne comprenais pas encore que tout cela sert de peu quand on ne bannit pas toute confiance en soi-même pour placer totalement sa confiance en Dieu. » Merci de votre attention.
Merci Jean-Baptiste pour cette conférence absolument passionnante, dite en plus avec enthousiasme et beaucoup d'humour. Elle nous annonce une table ronde absolument passionnante. Voilà, il va y avoir souvent des questions, des discussions, donc vraiment un très grand merci.